20h01 sur Radio G. Vous êtes en compagnie de l'équipe de Génération Sport jusqu'à 21h. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport en ce mardi 11 juin 2024. Très heureux de vous retrouver. Il fait beau, il fait plutôt bon. Voilà, c'est un temps idéal pour parler de sport sur Radio G. Aujourd'hui, on vous détaillera le programme après, mais l'émission est assez chargée. Avant donc de faire le sommaire de cette émission du jour, je vais présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. Chacun va pouvoir avoir un micro puisque malheureusement Clément n'est pas présent. Alors il joue, donc on lui souhaite bonne chance pour un petit match amical. À ma droite, Cédric qui est là. Salut Cédric, comment ça va ?
Eh ben salut, écoute, ça va super bien.
La forme ?
Ouais, on a eu quand même un bon week-end sportif. Hein.
C'est ça.
Même la semaine, on a eu des petites choses sympas. Niveau foot, avec l'équipe de France, on s'est pas forcément beaucoup amusé, j'ai envie de dire, mais heureusement que les autres soirs étaient là.
Effectivement, on a pas mal d'actu sur les derniers jours, et puis on en aura encore plus dans les semaines à venir. Juste à côté de toi, il y a Florian. Salut Florian, comment ça va ?
Bonsoir à toutes et à tous. Bah ça va très bien, écoute. On est ravis de pouvoir avoir de l'athlétisme tous les soirs qui viennent égayer un peu nos soirées. Ça nous avance vers tout doucement vers les Jeux Olympiques.
C'est bien. C'est toujours cool ces périodes d'athlée.
C'est le soir quand t'es chez toi, t'es tranquille, tu regardes ton petit athlétisme jusqu'à 22h30, 23h là.
C'est parfait.
T'as des médailles françaises en plus, c'est vraiment très agréable.
Oui, en plus parce que c'est rare.
Ouais,
bah, il faut le dire.
Oui, il y a un renouveau.
On profite des championnats d'Europe pour
avoir des médailles à l'athlétisme. Parce que je suis pas sûr que cet été au mois d'août on en ait beaucoup.
Exactement. Mais il y a des signes d'espoir. On en reparlera. Voilà. Mathéo est également là. Salut Mathéo. Comment ça va ?
Salut Alex. Bonsoir à tous. Et écoute, ça va. Malgré ce dimanche compliqué. L'euro arrive. Donc on va dire que ça va cacher cette phase compliquée.
Compliquée, on va dire. Voilà. On dira pas plus pour le moment. Mais voilà, on s'est compris. Faustin est également avec nous. Salut Faustin, comment ça va ?
Salut Alex, salut tout le monde. Bah ça va toujours très bien. Moi je peux un peu moins suivre les actualités en ce moment. Je suis en pleine révision du bac toute la journée.
Focus.
Ouais,
c'est T'as quand
important.
Même pu voter du coup. Bah c'était peut-être.
Ouais, c'était mon premier vote.
Intéressant ça.
Il va s'en souvenir.
Alors ça reste secret évidemment, mais c'est t'as bien aimé l'expérience ?
Ouais, bah c'est. Un vote.
C'est rien de particulier. Bon, c'est pas grave.
Il s'est pas cassé la tronche dans les urnes, ça va.
Non, ça va.
Il y a pas eu d'accident.
Imagine pour un jeune, c'est le premier vote qu'il fait, dissolution derrière.
Oui, c'est vrai que
je vais enchaîner.
Voilà, rien comprendre. Ça fait trois. C'est vrai que ça va faire trois votes
en un mois.
Donc voilà, ça va aller vite. En parlant de vote, on va vous présenter ce soir les nommés pour les Générations d'Or 2023-2024. On rappelle que ce sont des trophées officieux pour récompenser les acteurs du sport angevin dans quatre catégories: meilleur sportif ou sportif, meilleur entraîneur, meilleur espoir et meilleur club. Donc on va procéder tout à l'heure à la révélation des nommés et puis on expliquera un peu les différents choix. Ensuite un petit peu d'infos locales, il y a deux trois choses à dire et on embrayera sur notamment Roland Garros, mais surtout on aura une grosse preview Euro 2024 puisqu'il débute dans 3 jours maintenant en Allemagne. On parlera des favoris de l'équipe de France. Mathéo, tu nous proposeras une chronique sur le thème
de la Géorgie, j'espère ne pas écorcher. Bah déjà ça commence mal. Le nom des joueurs.
Déjà en français, voilà.
Ouais, ça va être compliqué, mais c'est hyper intéressant. C'est un sujet de malade.
C'est vrai que c'est un très bon sujet. Donc tu nous feras découvrir cette équipe géorgienne qui participe à son premier Euro. Donc ça va être intéressant. Et puis évidemment toutes les autres actualités. On le disait, l'athlète. Un peu aussi le rugby, mais pourquoi pas aussi le basket avec toi, Faustin, puisque les finales NBA ont débuté, il me semble.
Tout à fait.
On va donc commencer avec les nommés pour les générations d'or. Messieurs, je vais vous laisser prendre vos téléphones pour annoncer tour à tour les différents nommés dans toutes les catégories. Je propose de faire dans l'ordre. Je vais faire Cédric. Est-ce que tu es prêt potentiellement à nous annoncer les nommés pour les trophées de meilleur sportif et ou meilleure sportive?
Ah, attends.
Parce qu'on rappelle donc
qu'on récupère.
On rappelle qu'on a donc scindé, plutôt au contraire fusionné les deux catégories donc de meilleur sportif et de meilleure sportive pour ne former qu'une seule catégorie avec donc la parité qui est respectée. 3 nommés en sportive féminine et 3 nommés en sportif masculin. Cédric, la parole est à toi.
Ah, tu veux que je les cite tous et tu feras une présentation après?
C'est ça, cite-les, voilà, le nom, le club, et puis après je m'en occupe de la suite.
Alors, on va commencer par le SCO Football, hein, le SCO d'Angers, par avec Imad Abdelhi. Voilà. Donc la suivante, c'est une femme, c'est Amandine Brossier pour le SCO Athlétisme. L'outsider peut-être cette année, j'ai envie de dire Léa Lacan pour l'UFAM 49. Vanilla Poetti pour donc ses kayaks.
Ouais, ça, les Zacs.
Et pour le basket et Cholet, Néal Saka.
Nils Sacco,
oui. Et pour finir, peut-être une grosse surprise, hein, malgré un parcours plus difficile peut-être que les autres clubs cette année, c'est les Ducs avec, je te remercie. Hein,
j'ai pris des noms compliqués
cette année, ouais. Alors.
Tu veux que je le dise à ta place peut-être?
Nikita Sherbak.
Sherbak, oui. Bon, voilà. Alors, pour vous présenter donc Imad Abdelhi de Angesco. Alors, évidemment, grand artisan de cette remontée du SCO en Ligue 1, nommé au trophée UNFP pour le meilleur joueur de Ligue 2, intégré aussi dans l'équipe type de ce championnat. Voilà, Imad Abdelhi qui a vraiment rayonné cette saison du côté du SCO. C'était assez logique de le mettre. Ensuite, Amandine Brossier du SCO Athlé, record personnel en salle battu en février 2024 à Metz, notamment avec un chrono de 51-67. Elle s'est également approchée de son record ce week-end, pas plus tard que ce week-end, en extérieur, donc au championnat d'Europe à Rome, avec 51 secondes et 30 centièmes. Et puis également quatrième des championnats du monde 2023 avec le relais 4x400 mètres mixte.
On la retrouvera peut-être tout à l'heure d'ailleurs dans le relais.
Et puis surtout, j'en parlerai évidemment dans nos actus locales. Ensuite, Leïla Lacan, UFAB 49, joueuse maître à jouer hein, de l'UFAB 49 cette saison. 12,7 points par match en saison régulière, notamment 14,5 sur la scène européenne. Évidemment, internationale française, la pépite du côté de l'UFAB qui malheureusement a rejoint Basketland récemment. Vanina Paoletti, une habituée hein, des nominations aux générations d'or, donc de l'ESAC. Qualification notamment entérinée pour les Jeux Olympiques en K2 sur 500 mètres avec Manon Ostens. Et puis dixième des championnats du monde récemment. Nils Sacco de Cholet Basket, 11,9 points par match en saison régulière de Betclic Elite. Et puis surtout, voilà, un des meilleurs joueurs de Cholet sur cette saison. Et puis enfin, Nikita Sherbak des Ducs d'Angers. Comme tu me disais, Cédric, voilà, un parcours un peu plus compliqué pour les Ducs, mais pour lui, c'était vraiment une année très importante. Meilleur pointeur des Ducs avec 47 points inscrits, le troisième meilleur dans la Ligue, et puis un des meilleurs joueurs tout simplement de Ligue Magnus. Beaucoup de ses pairs en disent du bien, et à noter qu'il est également parti puisqu'il a rejoint VIH en Autriche. Rapidement, messieurs, voilà, est-ce que vous avez un favori qui se dégage? Je tiens à préciser quand même que donc cette liste intègre notamment 3 athlètes, d'ailleurs les 3 féminines, qui devraient vraisemblablement participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous avez un favori, messieurs, dans cette première catégorie? Ça se bouscule pas. Ça veut pas se prononcer.
Ça se prononce durement.
Moi, je pense que j'irai sur Imad Abdelhi.
Ouais.
Parce que d'habitude, j'aime bien miser sur les basketteurs. Mais là, si je dois parler de Nils Sacco, je pense que Cholet, c'est plus un collectif qui ont fait qu'ils ont été bons cette saison. Et Leïla Lacan, elle a, pareil, pour l'UFAB, c'est plus un collectif que vraiment des performances individuelles, comme on avait pu voir avec Alexis Peterson. Donc j'irai sur Imad Abdelli.
Pareil pour toi, Mathéo.
Moi, j'irais plutôt sur Leïla Lacan, okay. Je pense. Abdelli, c'est plutôt dû à la cote de popularité plutôt qu'au niveau réel du joueur sur sa saison. Donc, moi, j'irais ouais plus sur Leïla Lacan pour, on va dire, finir cette saison magnifique pour elle.
Surtout qu'on sait qu'on a eu des surprises. C'était pas forcément les votes sur le papier le plus populaire qui remportait à la fin.
On a eu des surprises, effectivement, sur les éditions précédentes. Florian.
Ouais, je rejoins aussi Mathéo. Parce que pour le SCO, je réserve mon vote pour autre chose.
Très bien.
Les JO sont pas joués. Donc, il y a déjà des personnes. Pas qu'on enlève, mais qu'on mesure moins.
Oui, évidemment.
Oui. Moi, ce sera pas le hockey, malgré ça. Je pars quand même tout le monde sur les Lacan.
Tu pars avec.
Pour son parcours, quand même, sur ses dernières saisons sur Angers, plus son arrivée en équipe de France, le fait aussi qu'il, voilà. Draft en basket aux États-Unis, enfin, à dire c'est pour l'ensemble de sa carrière pour l'instant, voilà, ça serait une belle récompense, quoi.
Très bien. Prochaine catégorie, la catégorie du meilleur entraîneur. Et ben écoutez, je crois que je vais laisser Florian nous la présenter. Florian, la parole est à toi.
Alors 5 nominés pour le meilleur entraîneur pour les générations d'or. Donc Aurélie Bonan pour l'UFAB 49. Alexandre Dujeu, Angesco, Valentin Rey, Croix-Blanche, Angers, Victor Vara, Sco Rugby et Laurent Villa, Cholet Basket.
Aurélie Bonan, évidemment, nommée pour la deuxième fois consécutive et puis surtout une deuxième très bonne saison pour elle dans la continuité de la première. Une bonne gestion, évidemment, de son groupe et puis la deuxième qualification de suite en play-off de LFB. Que dire d'Alexandre Dujeu, évidemment, première année complète en tant qu'entraîneur principal et directement la montée en Ligue 1. Il a su très bien gérer son groupe pour créer la surprise et faire remonter le club à l'échelon supérieur. Ensuite, Valentin Rey, donc de l'Angers Croix-Blanche, pareil, deuxième nomination de suite pour lui. C'était sa première saison au niveau national et il a acquis le maintien en troisième division féminine, donc avec son équipe de la Croix-Blanche. Ensuite, Victor Varas, qui a notamment qui dirige le SCO Rugby depuis quelques temps maintenant, et qui a participé, je crois, Mathéo, au barrage de Fédéral 3.
C'est ça.
Et qui était passé proche donc de cette montée en Fédéral 2. Laurent Villa, troisième saison de suite à Cholet et troisième qualification en play-off. Voilà une qualification qui a fait du bien évidemment au club. À noter qu'il va notamment quitter les Mauges après la fin de son contrat. On va enchaîner sans plus tarder. Je vais tiens symboliquement pour le trophée du meilleur espoir, je vais laisser le plus jeune de la bande nous parler des fameux nommés. Je te laisse la main, Faustin.
Et on commence du coup avec Marine Dursus pour l'UFAB 49. On a ensuite Justin Kalumba à Angesco, Hugo Mienadni à l'EAB, Gaspard Pommier au Angesco Handball et enfin Tijan Salone, Cholet Basket.
Marine Dursus qui a 18 ans seulement, internationale française U20, première saison en LFB pour elle, 16 points inscrits notamment dans les playoffs, 12 points aussi inscrits dans le match décisif contre Tarbes en toute fin de saison. Voilà, elle s'est notamment révélé sur la fin de l'année du côté de l'UFAB. Justin Kalumba, 2 passes décisives en Ligue 2 pour lui, 13 matchs joués. Le joueur de 19 ans a été un vrai dynamiteur de l'aile droite angevine pour l'attaque du SCO. Ensuite, Hugo Mienandi, international français U20 également, ailier assez polyvalent, et 9 points et 5 rebonds de moyenne en Pro B. Gaspard Pommier, 20 ans du SCO Handball, meilleur espoir du club, hein, ça a été un sondage qui a été réalisé sur les réseaux sociaux du club du SCO Handball, meilleur espoir du club, 36 buts notamment en 27 matchs dans un secteur qui était en plus assez concurrentiel. À Angers, enfin, Tidjane Salone, 9 points de moyenne en saison régulière, donc à Cholet Basket. Il a seulement 18 ans, meilleur joueur LNB du mois de janvier notamment, et probablement drafté très haut pour la draft qui arrive prochainement. Un favori, messieurs. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas dit meilleur coach. Voilà, pareil, vos favoris sur meilleur coach et meilleur espoir, rapidement.
En meilleur coach, moi j'irai sur Alexandre Dujeu pour okay. La montée, évidemment. Et en meilleur espoir, sans hésiter, sur Tidjane Salone.
Voilà, qui t'a séduit cette saison avec Cholet.
Exactement.
Mathéo ?
Pour le coach, c'est difficile de pas aller sur Alexandre Dujeu. Honnêtement, il coche toutes les cases. Et puis après, pour le meilleur espoir, je vais pas être objectif, mais je vais dire Kalumba.
Ouais. Logique. Tu m'avais parlé notamment sur.
J'en parle tout le temps, Kalumba. C'est peut-être le joueur que je préfère Osco, donc okay. Là-dessus, je vais pas être objectif du tout.
T'es vraiment sûr, hein? Ouais. Tu peux encore changer.
Non, je pense que même la saison prochaine, ça changera pas.
Florian.
Non, je rejoins Faustin sur les deux choix. Dujeu, côté entraîneur, vu la saison qu'il a fait et qu'il a eu. Et avec l'effectif, une équipe qu'on annonçait complètement à la rue et qui a réussi à remonter, c'est énorme. Et pour le meilleur espoir, je pense que voilà, Tidjane Salone, c'est incroyable de l'avoir eu à Cholet. Et on va voir maintenant, on va le voir exploser en NBA. Je pense que c'est l'un des joueurs qui va faire un gros upgrade au niveau de la draft, je pense, en juin et même dans sa saison l'année prochaine.
On verra quel pic il aura. Et Cédric, meilleur coach et meilleur espoir?
Pour le meilleur coach, moi je vais partir sans le Vali. Hein.
Ok, Victor Varas.
Voilà, non. Mais après, c'est pas forcément évident de se prononcer.
On dit pas ça parce qu'on les reçoit bientôt dans l'émission.
Vraiment, non, pas purement... du tout. Non, en plus, non, mais ça changerait encore. Là, tout le monde voit le scoop, je pense, logiquement, en termes de vote populaire. Donc, pourquoi pas montrer que le rugby vit bien et que voilà, ce sera aussi une belle récompense, je pense, pour lui, quelque part aussi, sur l'ensemble de ce qu'il fait au club depuis un certain temps. Puis, voilà, quoi. Et puis, en meilleur espoir, difficile de se prononcer parce que... hormis la joueuse de l'UFAB que je connais, les autres, j'ai pas forcément suivi, on dirait assidûment, leur parcours.
C'est pas grave, c'est voilà. Pas de souci. On va enchaîner tout de suite avec le meilleur club, et c'est Mathéo qui va s'y coller. Encore une fois, 5 nommés. Alors, l'année dernière, il y en avait 6, là, il y en a 5. Je te laisse faire, Mathéo.
Oui, c'est ça, on a sans doute 5 clubs les plus populaires du Maine-et-Loire, hors Duc d'Angers, bien évidemment. Donc, on a le SCO Football, le SCO Handball, le Cholet Basket, le SCO Rugby, et enfin, l'UFAB 49.
Voilà, donc les 5 nommés. On retrouve donc 2 clubs de Angesco. Alors évidemment, Angesco Foot, on retient la montée en Ligue 1, le rayonnement évidemment national et dans la ville, l'engouement créé autour du sport à Angers. Voilà, malgré bon, évidemment quelques personnes à la tête du club, mais ça reste un club iconique à Angers qui a fait une saison qui a fait rêver beaucoup d'Angevin. Au niveau du SCO Handball, un club qui travaille bien, alors peut-être moins de résultats sportifs, mais on a un maintien administratif qui est peut-être en cours d'obtention. On a eu notamment, parce qu'on récompense ça aussi, les clubs qui travaillent, il y a eu ce label bronze qui a été donc donné par la LNH, et puis une nouvelle salle du Hara qui est parfaite hein, pour les supporters du SCO Handball, et voilà, on mentionne ça également, qui crée un vrai engouement autour du club. Le Cholet Basket, donc voilà, évidemment représentant du Maine-et-Loire en Coupe d'Europe. À noter aussi évidemment l'Académie Gautier qui est très performante, qui voilà a sorti notamment à Tidjane Salin. Et puis Salone, c'est ça qu'on...
Salone.
Salone, pardon. Et puis voilà, troisième participation de suite en play-off. Donc voilà, Cholet Basket qui se réaffirme comme un club important du Maine-et-Loire. Ensuite, nous avons le SCO Rugby qui a reçu récemment le Oscar du rugby amateur par le Midi Libre. Le SCO Rugby qui est passé sportivement proche de la montée cette saison, c'est clairement le club qui monte à Angers avec voilà un encadrement de plus en plus important pour accompagner les rugbymen et également les rugbywomen, puisqu'il y a une section féminine qui est un petit peu d'ailleurs pionnière dans le département. Et voilà, encore une fois, la nomination est assez logique. Et enfin, évidemment, l'UFAB 49, le plus ou moins seul club féminin de cette liste. Voilà, évidemment, représentant Angevin en Coupe d'Europe, centre également un centre de formation qui progresse de plus en plus, beaucoup de pépites qui vont éclore dans ce club, de nouveau en play-off, et évidemment voilà les jeunes talents qui arrivent, bon, qui repartent aussi, mais voilà, Lacan, Dursus, etc. Pareil, un favori, qu'est-ce que vous voulez mettre plus en avant, le sportif, plus ou moins l'administratif, mais la gestion du club, voilà le rayonnement qu'il a, qu'est-ce que Faustin?
Moi, j'hésite un peu entre le SCO et le SCO football et Cholet, mais j'irai pour le SCO pour les émotions, quoi.
Les émotions, très bien. Mathéo.
Bah, comme tu l'as dit, malgré les déboires judiciaires, je pense que le SCO, c'est le SCO football, en tout cas, c'est l'équipe qui nous a fait le plus rêver sur Angers cette année. Maintenant, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mettre une petite pièce sur le SCO rugby. Ouais. Là aussi, belle année, très belle année, même pour l'équipe 2, qui a fait aussi des très bons résultats. Donc, mon choix de cœur irait sans doute sur le SCO rugby.
Très bien.
Identique. Ouais, on va quand même mettre en avant aussi un club qui travaille très bien depuis de nombreuses années maintenant. Donc, c'est quand même bien de le mettre en avant. Je pense que le SCO est là aussi parce qu'il y a cette remontée en Ligue 1. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, donc je préfère aller vers un club qui fonctionne bien et qui progresse. Et c'est pas anodin d'avoir une récompense du midi olympique, voilà, d'avoir ce genre de récompense.
Cédric.
Bah moi je pars clairement oui sur le SCO rugby, hein, pour l'ensemble des sections. Il y a même les jeunes là qui étaient bien placés, je crois, pour un dernier tournoi. Enfin, il y avait. Il y a cette montée qui était pas loin. Enfin, c'est une récompense aussi sur du travail sur du long terme. Mine de rien, c'est dans l'ensemble des clubs qui sont nominés, c'est ceux qu'on entend moins parler aussi médiatiquement. Donc, ce serait une belle façon aussi de les mettre en avant et puis bien finir aussi cette année avec un nouveau titre, quoi.
Eh bien voilà, les nommés pour les Générations d'Or 2023-2024. On vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà voter dans le sondage qui est publié sur nos réseaux sociaux, Instagram et Twitter, Facebook, ça arrive bientôt. Mais voilà, un sondage assez classique, Google Form, et c'est vous qui élisez les acteurs du sport angevin qui ont marqué cette année 2023-2024. Et puis dans deux semaines, on procédera à la révélation des résultats. Et voilà, alors il n'y a pas de trophée, mais en tout cas, j'espère que tous les vainqueurs seront contents d'être sacrés par le public. Et voilà.
S'il y a des gens qui veulent nous faire un trophée, voilà, on est preneurs.
Oui, on ne mettra rien,
on les enverra au club concerné.
Évidemment.
Aux personnes concernées.
Peut-être dans les années à venir, pourquoi pas. Bon, on va continuer avec les infos locales. Il y a deux, trois trucs sur lesquels on va revenir. C'est Faustin qui va prendre la suite maintenant. Tu vas nous parler un peu de Mercato avec ce qui se passe du côté de l'UFAB, mais aussi de Cholet Basket.
Ouais, parce que à l'UFAB, ça a bougé aujourd'hui. On a eu une info Mercato avec l'arrivée de la meneuse américaine Amerist Alston, qui évoluait du côté de Montpellier la saison dernière. On parlait tout à l'heure du départ de Leïla Lacan, et ben on a sûrement trouvé sa remplaçante. À Cholet aussi, ça a déjà pas mal bougé avec trois arrivées. D'abord Bastien Vautier, le pivot français qui est assez réputé. Ensuite Stephen Smith, un ailier américain, et enfin Aaron Wheeler, poste 4 américain là aussi. C'est un mercato qui avance très vite du côté de Cholet. En plus de la re-signature de TJ Campbell pour 2 ans. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont aller chercher en plus pour finir leur effectif pour la saison prochaine.
Ça, c'est évidemment très prometteur.
Ouais.
On va enchaîner avec donc l'athlétisme, on en a déjà un peu parlé, engagé en individuel et en relais pour les championnats d'Europe d'athlétisme à Rome. Amandine Brossier a réalisé une très bonne série lors de son entrée en lice samedi midi. L'Angevine a remporté sa série en signant un très bon chrono en 51 secondes et 30 centièmes. En demi-finale, la Française a été éliminée assez loin derrière les qualifiés au temps. Mais ces championnats d'Europe ne vont pas s'arrêter là, puisque la pensionnaire du SCO Athlé, a participé notamment aux demi-finales du 4x400 féminin. Le relais tricolore a terminé deuxième de sa course et disputera la finale demain aux alentours de 21h. Et puis une dernière info au football qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Le Stade Olympique, je sais pas si oui, c'est le Stade Olympique, le SO Cholet en tout cas, qui a été rétrogradé en R1 par la DNCG. Le gendarme financier du football français a décidé d'exclure le club des Mauges des compétitions nationales. Pour rappel, le club présidé par Benjamin Erizoglou avait terminé dernier du championnat national 1 et devait évoluer en N2 la saison prochaine. Les gars, un peu déçus quand même de plus voir Cholet au niveau national.
Bah ça leur pendait au nez, mais oui, par contre c'est vrai que c'est un peu embêtant, surtout que pendant plusieurs années c'était un petit peu ce truc de suivre le SCO et puis suivre Cholet en national, les matchs gratuits, tout ça, ça apportait vraiment un plus, donc ouais, vraiment dommage.
C'est dommage pour le département, pour la région. Après c'était quand même c'est quand même attendu, voilà, il y avait quand même plein de murmures autour de ce club depuis quelques années, et depuis ils ont raté le coche l'année dernière parce qu'ils auraient pu à un moment donné faire accrocher le bon wagon pour essayer d'aller chercher un peu plus haut, mais malheureusement pour eux la R1. Et quand tu descends en R1, c'est t'as intérêt d'avoir un projet solide, parce que des équipes de R1 de très bonne qualité, il y en a partout dans le département et dans la région. Donc il va falloir s'accrocher pour
d'ailleurs,
pouvoir remonter.
Selon les informations de Ouest-France, c'est pas officiel pour l'air, ça peut encore descendre. Donc voilà, c'est encore quelque chose à voir.
Ouais.
Dommage effectivement pour un club du Maine-et-Loire qui était assez important.
Si tu descends encore plus bas, ça veut dire quasiment disparition du club.
C'est ça, voilà. Le dépôt bilan qui arrive peut-être en menace. On va tout de suite marquer une petite pause musicale, puis on va se retrouver juste après. Et puis on vous parlera de notamment de l'Euro 2024 qui arrive très bientôt. On s'écoute Alpha One et les SRAM et leur titre Rotation. Et puis on se retrouve juste après.
Si tu ne les envoies pas se faire foutre, ils se foutent de toi. Soit tu joues, soit on se joue de toi. Prends la vie, prends-le, avant qu'elle ne te fasse les fesses. En cas de chute, toi de mieux qu'atterrir sur tes liens assez baisses. On entend la forêt qui tombe, jamais la pousse de l'arbre. Avec ton style à 12$, fais comme Solar et bouge de là, bouge. San Andreas, c'était chaud. Écoute celui-ci, pour eux, je suis nuisible. 8 tirs, touche, visible. Rappé avec nous, suicide, cauchemar en cuisine. Flégon comme une prothèse, ma mère. Renoir en sous-marin, on dirait que je protège la mer.
Let's go.
Ça fait quelques temps que j'ai la couronne, je crois qu'il faudrait que je la mette.
Let's go.
Ici y'a rien qui pousse, va le dire aux racistes. La France c'est une terre aride. Votez pas pour les fachos, la France va plonger sous-marine. Gloire ou déchéance, la nuit le péché entre. Chaque cycle arrive à échéance, c'est pas l'homme qui va me freiner. Un jour le traître en a marre de trahir, la traîner en a marre de traîner.
Pas de faveur, je bosse, je suis pas un gratteur de force. Rien n'est acquis dans le maquis comme un braqueur corse. C'est pour les darons qui au parlu vont voir leur gosse. On a des histoires plus incroyables que Warner Bros. Dans la zone, ça devient criminel. Pas de privilège, elle est mimi, elle veut son que ça Michael Corse. J'ai grandi, j'ai plus les mêmes vœux. J'ai des DM bleus, bah les couilles, je veux un BM2, puis le CM2. Chez nous, c'est pas le Far West, faut allumer tes phares, wesh. Réunion de malfaiteurs, rendez-vous au car wesh. Clic boom qui se couche, les flics bougent. Le quartier, les types louches, prix de touche, briques rouges. Pisse douche, vis avant des 10 touches, dis. Faut faire un choix, soit je fais un disque ou je dis. Je regarde sur la carte, là je suis sur la 4. Tu dis que tu poses tes mains sur la carte. Qu'est-ce que tu racaves? Solide comme les murs de la cave, speed comme un huracan. Tout le monde peut s'en sortir, c'est dur à croire.
Papa?
Je cherche pas
l'histoire.
Cherche les gros plafonds, qui je t'as de sécu dans les faux plafonds.
J'ouvre la location, j'roule, j'vois au dafond, j'ouvre la rotation.
Cherche pas les gros cafus, cherche les gros plafonds, qui je t'as de sécu dans les faux plafonds.
J'ouvre la location, j'roule, j'vois au dafond, j'ouvre la rotation.
De retour dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous êtes toujours en notre compagnie jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. On vous rappelle que notre sondage pour les Générations d'Or 2023-2024 est disponible sur nos réseaux sociaux. Vous tapez Génération Sport sur Instagram, Twitter ou bien Facebook. On va maintenant parler de football avec l'Euro 2024 qui approche. Match d'ouverture, donc c'est à 21h, si je dis pas de bêtises, le 14 juin, avec donc l'Allemagne qui ouvrira le bal face à l'Écosse. Cette compétition qui va donc débuter bientôt avec évidemment peut-être des favoris en tête. On a tous en mémoire peut-être la France, l'Angleterre ou voilà l'Allemagne. Justement, je vais faire un petit tour de table, savoir un petit peu quels sont vos favoris, qui est-ce que vous avez aussi mentionné en outsider, etc. Donc voilà, je vais commencer par toi, Florian. Vas-y.
Tu veux mon favori?
Ton favori, enfin tes favoris, enfin voilà. L'Italie. Et puis ton gros favori. C'est l'Italie, tout pour toi.
Favori Italie. Je pense que. Est-ce que faut que je développe maintenant ou pas?
Bah, vas-y, développe.
Ok. Bah écoute, tenant du titre, il y a 3 ans maintenant. C'était une surprise il y a 3 ans de les voir arriver si loin, puisque ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas forcément vus aller loin dans une compétition, que ce soit européenne ou mondiale. Il y a un entraîneur qui, enfin un sélectionneur qui est arrivé à la tête de cette sélection, donc Spalletti, qui est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs italiens actuels. Donc je trouve qu'il a bas un taf monumental. Il reconstruit quelque chose, mais même en reconstruisant quelque chose, l'équipe est de très bonne facture. Donc, et quand je vois l'état d'autres sélections, je me dis que l'Italie a largement toutes ses chances à se jouer. Le problème, c'est le groupe dans lequel elle est au départ.
Bah oui, c'est ça. Donc...
Espagne, Croatie, Albanie.
D'ailleurs, bah, ça me permet de faire justement l'état des lieux des différents groupes, et puis après je donnerai la parole aux autres. Donc groupe A, l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Donc groupe B, le groupe de la mort, clairement Espagne, Italie, Croatie, Albanie. Groupe C, Angleterre, Serbie, Danemark, Slovénie. Groupe D, celui de la France, avec également la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas. En groupe E, nous avons la Belgique, la Slovaquie, l'Ukraine et la Roumanie. Et dans le dernier groupe, le groupe F, celui du Portugal, de la Géorgie, de la Turquie et de la République tchèque. Je vais continuer le tour de table avec les favoris. Cédric, qui est-ce que tu vois favori?
Hormis la France, l'Allemagne à domicile, ça peut être fort.
Ouais.
Bien qu'il y a déjà des tensions qui sont arrivées dans le groupe. Pour des trucs vraiment débiles, mais bon, est-ce que le groupe vit bien? Je sais pas, mais après, je sais pas.
Bah, tu dirais donc la France,
mais France ou l'Allemagne,
mon favori.
Ouais.
Mathéo, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je trouve que c'est assez difficile de trouver un favori à cet euro-là, parce que forcément, le grand favori, c'est l'Angleterre.
Ouais.
Sauf que bon, c'est un peu une sélection maudite. Ça fait, je sais plus combien de temps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose. Et puis c'est une superbe génération autour
d'une victoire en euro.
Zéro
victoire sur la Coupe
du Monde. C'est assez révélateur.
C'est 66, la dernière. C'est la seule victoire en Coupe du Monde pour
oui,
l'Angleterre.
C'est ça.
66.
Donc ça date il y a vraiment fort longtemps. Et c'est un petit peu cette génération sublime. Entouré par un coach pas excellent, j'allais dire médiocre, mais bon, c'est un peu un manque de respect, ça reste des coachs quand même, c'est des grandes personnes du football. J'aurais plutôt dit l'Allemagne. Le problème, c'est que l'Allemagne, c'est un petit peu comme l'Italie, ça va dépendre des joueurs, de l'état de forme des joueurs. Il y a quand même moins de joueurs en perte de vitesse en Allemagne qu'en Italie. En Italie, on a quand même tout ce qui est les Locatelli, les Agnolo, les Chiesa, tout ça, c'est des joueurs qui aujourd'hui performent de moins en moins. Après la France, forcément, ça reste, mais là aussi l'un des favoris, mais il y a quand même quelques questionnements qui existent sur la France. Donc je serais pas franchement trouver un favori aujourd'hui. Okay. Peut-être le Portugal pour Cristiano Ronaldo, ça c'est plus le cœur qui parle. donc
aujourd'hui c'est très difficile. Tu rejoins Rotten alors.
Bah ça, je sais pas si c'est un compliment, mais
écoute, moi tout à l'heure j'ai écouté RMC, hein. Il a dit
faut le dire, très bel effectif le Portugal sur le papier.
Il a dit que c'était dans les favoris, donc
un nouveau coach.
Ouais, bien sûr, c'est ça,
dans les favoris.
C'est ça, Portugal, c'est, ils ont toujours un très bel effectif sur le papier, et je pense que l'année où vous avez un moins bel effectif, il la gagne. Donc
bah, c'est ça qui est assez fou. Mais voilà, nouveau coach Roberto Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique notamment, pour rappeler à nos auditeurs.
Ouais.
Donc voilà, ça peut être aussi des signes d'encouragement pour les Portugais. Faustin, ton favori? Oula.
Je vais pas être très original, je pense que je vais aller sur la France ou l'Angleterre.
Très bien.
Parce que bah c'est les effectifs qui ont l'air d'être les mieux je sais pas si c'est les mieux construits, mais c'est avec le plus de joueurs excellents qui peut faire gagner des grands matchs. Ouais. Donc, j'irai sur ces équipes-là.
Très bien. Alors, pour ma part, la France, je le sens pas très bien. On en reparlera dans l'émission après la chronique de Mathéo. Mais voilà, vous nous direz ce que vous pensez justement de cette équipe de France. Moi, c'est vrai que je partirais plus sur l'Allemagne, a priori. Et puis ouais, pourquoi pas le Portugal, mais c'est vrai que l'Angleterre, on l'a toujours freiné par ce côté, bah ils ont jamais rien gagné, donc voilà.
Il y a 3 ans, ils auraient pu le faire, hein. Ils perdent contre l'Italie, hein, donc en finale, donc ils étaient pas loin de décrocher, ouais, c'est ça.
C'est ça. Et évidemment, ça n'a pas marché pour eux. Eh bien, écoutez, on va maintenant parler des surprises qui peuvent peut-être arriver. Chers chroniqueurs, vous nous direz après qui est-ce que vous voyez un petit peu nous surprendre dans cet Euro. Mais avant ça, c'est Mathéo qui va nous parler d'une équipe qui dispute son tout premier Euro de son histoire. C'est la Géorgie. Eh bien, je te laisse la main, Mathéo.
Oui, c'est ça, comme on le dit depuis tout à l'heure, l'Euro commence vendredi. Et pour cette 17e édition, pas mal d'outsiders à suivre. Pas de prétendant au titre final, mais plutôt au rôle de trouble-fête pour les grosses sélections. On peut bien évidemment citer l'Autriche, premier adversaire des Bleus, pour qui Guy Stéphan a analysé à juste titre comme l'équipe la plus dangereuse du groupe D. On peut aussi citer la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Serbie, ou encore comme en 2020, la Turquie. Turquie qui se trouve dans le groupe du Portugal, de la République tchèque et d'un autre petit poussé à suivre, la Géorgie. Premier euro pour une sélection géorgienne bénie d'une génération exceptionnelle. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire footballistique de cette nation. Et bien évidemment sur pourquoi cette équipe est impérativement à suivre lors de cet Euro. Alors une chose importante à savoir déjà, c'est la jeunesse de la sélection créée juste après la chute de l'URSS. Une petite parenthèse historique s'impose puisque la Géorgie n'a que très peu été indépendante pendant son histoire moderne, 3 ans précisément. Et donc la chute de l'URSS en 89 a permis en 91 de se retrouver à nouveau indépendante. Mais les footballeurs du pays avaient déjà pris les devants puisque la sélection géorgienne avait déjà joué un match en 1990, le 27 mai contre la Lituanie, un nul 2-2. La fédération géorgienne intègre ensuite la FIFA et l'UEFA en 92, devenant une sélection reconnue et pouvant participer à la Coupe du Monde et à l'Euro, chose qu'ils ne réussiront pas avant cette année. Pourtant, quelques coups d'éclat existent, et ce, dès le début de la sélection 98, année que nous chérissons tous pour la première Coupe du Monde remportée par la France. Eh bien, la Géorgie participait à l'époque à sa première phase qualificative pour la Coupe du Monde. Alors, vous l'avez compris, la qualification n'a pas été acquise. Pourtant, les performances sont plus que satisfaisantes pour cette petite sélection emmenée par le futur joueur du Milan AC, Kaka Berkaladze. Troisième ex aequo avec la Pologne et à la clé une 42e place au classement FIFA, jamais égalée à ce jour. Ce coup de grâce passé, c'est le début des années à vide de la sélection. On observe du mieux à partir de 2010, mais les choses restent compliquées. C'est donc dans ce contexte que les dirigeants de la Fédération géorgienne de football décident de donner les clés du navire à un Français, un certain Willy Sagnol, ancienne grande figure du football mondial, un petit peu moins reconnu pour ses talents d'entraîneur, avec notamment ce passage compliqué à Bordeaux. Et pourtant, on lui fait confiance. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas le premier coach français à avoir entraîné la Géorgie. Alain Giresse l'a fait avant lui, de 2004 à 2005, mais n'a marqué absolument personne. Comme je vous l'ai dit, cette période est compliquée pour le football géorgien et l'entraîneur français se verra remercié après seulement 12 matchs, 2 petites victoires au compteur. La donnée est différente pour Sagnol, on le ressent dès les premiers matchs. Il est là pour du long terme et à sa disposition de solides bases comme Gourak Kachia, le capitaine historique de la Géorgie qui participera à l'Euro en tant que titulaire à 36 ans. L'équipe monte en pression, si bien que lors de l'édition 2022-2023 de la Nations League, ils finissent premier du groupe de Ligue C sans même connaître la défaite. Cette génération que je cite va éclore en un laps de temps plutôt court, révélant aux yeux du grand public des joueurs comme Kvaratskhelia avec Naples, Mamadarkhvili avec Valence, ou encore pour les suiveurs de Ligue 1, le roi Georges, Georges Mikotadze avec Metz. On peut également citer Shavketadze, compliqué à dire celui-ci, joueur de Watford importantissime dans le jeu proposé par Willy Sagnol, mais dont la carrière prometteuse s'essouffle et pour qui l'Euro sera sans doute l'ultime épreuve. David Tajfili pour les suiveurs de Ligue 2, une des rares satisfactions du côté de Bordeaux. Et puis si on devait garder un troisième joueur moins sous le feu des projecteurs, mais peut-être plus important dans cette sélection, c'est le milieu de Sturm Graz en Autriche, Otar Kitejvili. Milieu de terrain géorgien typique, physique, combatif, qui peut alterner rôle défensif et offensif. Et donc tout ce beau monde a fini quatrième d'un groupe composé de l'Espagne, de l'Écosse, de la Norvège et de Chypre pour les qualifications à l'Euro 2024. Je vous laisse deviner devant qui ont-ils fini. Passage donc par les barrages, et après cette victoire de prestige 2-0 face au Luxembourg, et bien les Géorgiens affrontaient les Grecs plus expérimentés sur le plan continental. 0-0, un match équilibré avec une Géorgie fidèle à ses principes de jeu qui va aller chercher la qualification au tir au but 4-2. Le plus dur commence maintenant pour les Géorgiens. Au-delà des individualités, ce qui est marquant en Géorgie, c'est le collectif axé autour d'un 3-4-3 qui a fait ses preuves depuis sa mise en place par Willy Sagnol en 2021. Un système qui leur a permis d'enchaîner à partir de sa mise en place contre le Kosovo le 12 octobre 2021. 11 matchs sans défaite. Une seule incertitude règne encore dans cette sélection, la capacité à défier des grandes nations. Dans leur groupe de la qualification à l'Euro 2024 contre l'Espagne, c'est 0 point, 10 buts encaissés. Et contre l'Écosse et la Norvège, c'est 2 nuls et 2 défaites. La dernière grosse sélection, entre guillemets, battue par la Géorgie, c'est la Suède. Victoire 2-0 en novembre 2021, ce qui n'est donc pas vraiment très glorieux et surtout assez vieux. Et puis, dernier point concernant cette Géorgie à l'Euro, c'est le calendrier qui est parfait. Le Portugal fait bien évidemment figure de grand favori dans ce groupe, sauf qu'il les affronte en dernier. Le temps, lors de la première journée, de prendre la température contre une équipe qui doute souvent ces dernières années lorsqu'on l'attend, la Turquie, on l'a bien vu en 2021. Mais le vrai match dans ce groupe pour cette Géorgie, c'est sans doute la République tchèque, quart de finaliste du dernier Euro. Deuxième journée face à une équipe hyper intéressante menée par un entraîneur qui n'a que quelques mois d'ancienneté face aux 3 ans de Willy Sagnol. Moins de stars, mais plus de joueurs confirmés et surtout qui auront joué le Portugal en ouverture, qui tout double donc sur l'état de forme. La Géorgie est largement l'outsider de ce groupe. Sa cote de qualification est à 2,50. Avant-dernière dans les prévisions de qualification de cet Euro devant l'Albanie. Les Géorgiens ont donc tout à gagner et si je devais prendre les paris, eh bien je les verrais bien finir meilleur troisième.
Eh ben merci beaucoup Mathéo pour cette chronique très très complète sur l'équipe de Géorgie. C'est vrai que c'était assez intéressant puisque c'est aussi un nouveau pays.
Et puis ça peut être un adversaire des Bleus en huitième. Également, je l'ai pas mis, mais deuxième du groupe F affronte
le premier du groupe D.
Voilà, ouais,
ça va être intéressant de voir ça. Ouais, effectivement, la Géorgie qui, je crois, n'a pas tout de suite fait partie de l'UEFA en plus.
C'est ça, ils ont dû attendre 92. Donc fédération créée en 91. 92 ouais. Pour intégrer la FIFA et l'UEFA, et en soi la sélection existait déjà en 90.
Très bien. Écoute, c'est assez complet donc sur la Géorgie qui, on rappelle, sera dans le groupe du Portugal, de la Turquie et de la République tchèque. Autour de la table, est-ce que vous avez une autre surprise en tête, une équipe qui peut surprendre sur cette compétition
pour gagner l'Euro
Non, pour faire un beau parcours, pour nous surprendre un peu comme le Pays de Galles par exemple en 2016 ou l'Ukraine en 2021 notamment.
Ou
l'Islande en 2016 aussi. Croatie, tu penses?
Croatie, ouais.
Et nous surprendre encore une fois.
Ouais. Après, il faut voir où ils en sont, mais ils sont souvent là quand même depuis un moment sur les grands rendez-vous.
On rappelle Croatie, du coup, dans le groupe de la mort avec l'Espagne.
Je pense qu'ils vont avoir leur mot à dire là-dessus. Peut-être que, justement, ça pourrait être un peu la surprise de ce groupe-là, au moins en deuxième place. Première place, ça risque peut-être plus délicat.
Pourquoi
mais...
pas meilleur troisième?
Oui, parce qu'il y en a 4. Hein. Il y a 4 meilleurs troisièmes sur les 6 qui sont troisièmes. Les 4 meilleurs sont qualifiés.
C'est vrai qu'il y a ça maintenant.
Donc, 24 participants pour 16 équipes qualifiées en 8e de finale.
Je pense qu'il faudra toujours faire attention au Danemark et au Danemark, principalement les Pays-Bas, parce que du coup, ils sont dans le groupe de la France. Je pense qu'on va en parler dans quelques instants. Mais le Danemark, c'est toujours une nation qui, à l'Euro, performe. On se souvient de leur victoire. On était tous soit très jeunes, soit pas nés du coup, mais en 92
ouais.
Pour le Danemark. Mais du coup, c'est une équipe qui peut toujours aller loin dans cette compétition de l'Euro. Après, j'ai un petit, je vais suivre quand même la Slovénie. Alors pourquoi okay. Rien à voir, mais je sais ce pays sort des sportifs à tout va en ce moment. Qui performe dans tous les sports. Donc du coup, je vais regarder un peu la Slovénie avec un œil un peu plus particulier. Et l'avantage c'est que Bein maintenant diffuse les matchs, donc on va pouvoir les voir.
Donc on rappelle Danemark et Slovénie dans le groupe de l'Angleterre et de la Serbie. La Serbie qui, peut-être vous le savez pas, mais va disputer aussi son premier Euro. Il y a deux pays qui vont découvrir l'Euro, c'est la Serbie et la Géorgie. Faustin, est-ce qu'il y a une petite équipe qui te tente, qui a une petite curiosité?
Je serais aussi allé sur le Danemark.
Ok.
Ah.
demi-finaliste de la dernière édition, on le rappelle.
Ouais, moi je les verrais bien aller peut-être en quart, faire vraiment des bonnes performances, peut-être sortir une grosse équipe, pourquoi pas.
Ok, très bien. Bah moi j'irais sur, alors ça va être très surprenant puisque justement ils sont dans le groupe de la mort. Je vois bien, pourquoi pas, un truc de fou. Je me mouille un peu, l'Albanie qui va chercher une meilleure troisième place, qui va chercher voilà Croatie ou des choses comme ça parce que c'est une équipe qui a très bien réussi ses éliminatoires, qui a un coach donc Silvinho, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, et qui a réussi à prendre cette équipe et qui je trouve en tout cas je pense qu'il a trouvé son
schéma tactique.
Ouais, non mais plus sur son idée.
Ouais.
Je trouve que là en tout cas la sélection nationale lui convient mieux qu'un club. Si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Dire dans le côté arme, dans le côté passion, dans le côté résultat imminent, voilà, défensif, etc.
Arme, ça lui va bien en plus.
Bah c'est ça.
Quand on voit les images de Lyon avant le derby là, quand il tape dans toutes les mains.
Ça c'est.
Mais c'est fou, c'est les coachs de Lyon qui réussissent après leur passage. À Lyon, alors, Peter Boss, Silvinho,
Rudy Garcia, un peu moins. Genesio, un petit peu, voilà. Dans une moindre mesure. Donc voilà, ouais, pourquoi pas la Bali, je sais pas, je sens bien. Et sinon, pourquoi pas l'Ukraine aussi, qui pourrait nous surprendre, évidemment. On va revenir sur l'équipe de France très rapidement. Quel parcours vous envisagez pour l'équipe de France? Comment vous la sentez cette équipe? Dites-moi un peu votre. Est-ce que vous êtes plutôt inquiet? Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous l'avez dans vos favoris, Cédric? Qu'est-ce que tu en penses?
L'info du jour, elle est pas forcément rassurante.
L'info du jour.
Apparemment, Deschamps a décidé de donner les clés à Mbappé pour l'équipe de France. Donc,
ça fait un petit moment qu'il a donné les clés quand même.
Oui, non, mais c'est-à-dire que tout va jouer autour de lui.
Ah oui, dans le jeu.
Dans le jeu. Donc ça, c'est un petit peu plus inquiétant, je trouve.
C'est pas déjà un peu le cas? C'est plus Griezmann, tu penses?
Griezmann aurait été mieux, je pense, pour mieux distribuer, pour mieux diriger. Bon, après, on sait que de toute façon, avec Deschamps, il va rester dans cette idée-là s'il l'a décidé. Donc, moi, je trouve qu'enfin Mbappé n'a pas forcément été là trop cette saison. Premier match, je l'ai pas trouvé terrible. En deuxième, il y a cette petite blessure. Explique pourquoi il est pas titulaire, mais sa rentrée après en soi je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, après ce match là se demande pourquoi on l'a fait, hein. C'est beau de faire des entraînements télévisés, hein. Ça aurait été aussi efficace de jouer entre eux, je pense que
télévisé en différé, quoi.
Oui, mais il a été diffusé. Mais en tout cas voilà, non, moi ça m'inquiète un peu, ouais, de qu'on lui confie tout. Je suis pas sûr que niveau pression ça va le rassurer quelque part après sa saison qu'il a fait, quoi.
Florian, t'en penses quoi là? T'es inquiet pour l'équipe de France ou t'es serein?
Non, je suis pas inquiet. Je suis serein. Je veux pas dire, c'est un bien grand mot, serein, mais on sent que l'animal fétiche de Didier Deschamps est toujours là. Quand tu vois un peu, c'est Koh-Lanta le groupe de la France, parce que tu vois tous les blessés autour là.
Ouais.
L'Autriche a un blessé, c'est David Alaba. C'est quand même son capitaine, meilleur joueur, enfin l'une des stars de la sélection. Tu vois qu'en Pologne, Lewandowski se blesse, Arkadiusz Milik se blesse.
Ça a été confirmé pour du coup.
Après, je parle pas de pour l'instant de forfait. Hein. Je parle pour l'instant juste de blessure. Ouais. Ils sont sortis sur blessure sur leur dernier match amico, les deux. Enfin même voilà.
Ouais, mais en tout cas, ça a été confirmé que c'est bien sur blessure. Ouais,
et côté Pays-Bas, c'est pareil. De Jong est forfait pour l'Euro.
Il y a Frankie.
Ouais, Frankie De Jong, ouais. C'est ce que j'ai vu en plus. Parce que, du coup, le sélectionneur s'en est pris au Barça dernièrement en plus. Donc, écoute.
Copa Miners aussi.
Copa Miners, ouais.
Mais
ouais.
C'est un mal pour un bien pour eux, dans le sens où ils ont pris Madsen à la place de De Jong. Ils ont pas de piston sur le côté gauche. Ça reste un choix intéressant, mais comme année perdue.
En Ligue Europa Conférence, avec le beau cadeau qu'il a fait à l'Olympiakos, Madsen, il jouait contre...
Non, Madsen, c'est Dortmund.
Ouais, c'est Dortmund. Ah oui, c'est Dortmund. Ouais, le latéral de Dortmund, du coup, qui a fait un beau petit cadeau, du coup, en finale de Ligue des Champions.
Il est encore jeune.
Il est encore jeune, ouais, je sais. Mais bon, est-ce qu'il sera, du coup... C'est pour ça que je te dis que la France, va passer ce premier tour.
Ok.
Et vaudrait mieux pour eux qu'ils soient premiers, parce que c'est sûr que si tu joues le Portugal en huitième, c'est compliqué. Donc voilà. Après maintenant, ce parcours-là, après c'est la joie du tirage, la joie aussi des équipes qui vont s'affronter par la suite. Donc il y aura ce premier tour. C'est sûr que s'il y a accident industriel, on aura nos discours dans trois semaines.
Mathéo, t'en penses quoi?
Bah moi c'est pareil que Florian dans le sens où je suis un peu mitigé, j'ai pas peur pour l'équipe de France parce qu'on a quand même de sacrés joueurs dans cette sélection, c'est assez flagrant. Maintenant le problème c'est qu'il y a encore des postes où on a personne techniquement, le poste de latéral droit c'est une énigme depuis des années. On a enfin le joueur qu'il nous faut, c'est Malo Gusto, c'est un latéral droit moderne, hyper prometteur et qui peut se révéler sur ce genre de compétition. On fonce pas. On garde Jules Koundé qui est largement meilleur en centrale, sauf que c'est pareil, c'est un peu bloqué au niveau des défenseurs centraux, donc c'est assez compliqué. On n'a pas de créateur. On l'a vu contre le Canada, c'était vraiment compliqué sans créateur. On a une équipe qui se retrouve avec des joueurs devant qui attendent juste la balle pour aller tirer. On a un bloc qui est derrière et on n'a rien entre pour faire la transition. Donc c'est assez compliqué. Et puis derrière, il y a toutes ces histoires d'ego de Mbappé qui arrive à Madrid. Donc il va se prendre pour je sais pas qui à l'Euro. Enfin bon, ça va être assez marrant à regarder. Et dans tous les cas, s'il y a pas de victoire finale, ça sera une défaite cet Euro tout simplement.
Faustin, rapidement, c'est quoi ton
Moi, je suis peut-être un peu plus optimiste.
Ok.
Et je les vois performer vraiment à cet Euro. Je pense au moins les demi-finales et même les finales. Je pense que c'est l'objectif de toute façon clairement de l'équipe de France et je pense que c'est ce qui va être atteint.
Et ben les finales, tu vois, tu parles comme comme un suiveur de NBA. Et ben écoutez, la transition est toute faite. On va se pencher maintenant sur le basket avec toi, Faustin. Tu vas nous parler donc des finales NBA, mais tu nous parleras ensuite de la finale de Basketball Elite, évidemment.
Et bah du coup les finales NBA ont démarré et une équipe a déjà pris les devants car les Celtics mènent déjà 2-0. Le premier match est facilement gagné sur le score de 107-89 grâce à un Kristaps Porzingis très en forme pour son retour de blessure. Il a l'avantage de taille sur absolument tous ses vis-à-vis. De l'autre côté, on a un Kyrie Irving qui passe totalement à côté de son match pour son retour au TD Garden, ce qui met vraiment Dallas dans le mal. Pour le match 2, c'est Jrue Holiday qui s'est illustré en scorant 26 points et captant 11 rebonds, des stats peu habituelles pour le meneur de Boston. Cependant, sur les deux matchs, on a un Jason Tatum qui est censé être le leader de cette équipe, qui est malheureusement en dessous des attentes en ne dépassant pas les 18 points avec un pourcentage au shoot très faible sur les deux matchs. Du côté de Dallas, c'est une fois de plus Kyrie qui passe au travers de son match et rend la tâche encore plus compliquée pour son équipe, malgré un Luka Doncic qui reste exceptionnel. Ils perdent donc le match 2, 105-98. Ce qu'on peut voir de ces deux matchs, c'est clairement que les franchise players de chaque équipe ne vont pas faire gagner la finale. Il faut plus compter sur l'impact des role players qui sont les factories de chaque match. Et à ce jeu-là, c'est clairement Boston qui est dans les meilleures conditions pour s'imposer. Maintenant, du coup, on va retourner en France. En Betclic Elite, et Paris Basket a réussi un exploit en prenant le match 2 dans l'antre monégasque, notamment grâce à un duo Nadirifi-TG Short qui combine 45 points sur les 77 de leur équipe, leur permettant de remporter le match 77-70 donc. Mais cela n'a pas plu à la Roca Team qui avait soif de vengeance pour ce match 3 à Paris et mené par un super Ilie Okobo. Ils se sont facilement imposés 88-59. Monaco n'est plus qu'à un match de réaliser le back-to-back et le match 4 a lieu demain à 21h05 pour potentiellement voir le sacre monégasque.
Eh bien, on suivra ça, évidemment. Merci à toi, Faustin, pour cette page basket. On va enchaîner avec le tennis. Samedi et dimanche se déroulaient les finales de Roland-Garros 2024. Chez les femmes, c'est la Polonaise Iga Świątek qui l'a remporté impérial sur tout son parcours, excepté ce match magnifique contre Osaka au deuxième tour, où la numéro 1 mondiale a notamment sauvé 2 balles de match. Il s'agit donc de son 4e titre sur les internationaux de France, le 3e consécutif. Et de son côté, à 21 ans, Carlos Alcaraz a décroché son premier grand chelem parisien, le 3e de sa carrière après Wimbledon. Et l'US Open, l'Espagnol est venu à bout, de l'Allemand Alexander Zverev en finale en 5-7, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Est-ce que autour de là, vous avez vu cette belle finale avec du suspense? Vous en avez pensé quoi?
Il va falloir qu'il travaille son mental et sa résistance à 15. Il arrive à faire des long runs, mais il les enchaîne et je pense qu'il a manqué quand même un peu de peps sur cette finale-là. D'où les crampes aussi qu'il a eu pendant le match.
Voilà. Mais il a gagné au final.
Il a gagné, oui, mais ça passe pas loin, hein, que ce soit Zverev qui passe. Ça fait comme sa demi-finale, en fait, où ça s'est rendu 7 par 7.
Ouais.
Mmh. Ouais. Bah écoute, il est jeune et tu te dis que s'il arrive à faire preuve de plus de régularité, il va aller en chercher des grands chelems. Maintenant, il faut enchaîner. Il en fait un par an. Maintenant, s'il a les capacités pour aller en chercher d'autres, Alcaraz-Sinner, je pense que c'est peut-être le duel qu'on va avoir dans les prochaines années, en tout cas chez les hommes. Et juste pour chez les femmes, Swiatek, 23 ans, 4 grands chelems, enfin 4 Roland-Garros. Bon, elle est partie pour
faire une Nadal, quoi.
Ouais. Ah bah j'espère pour elle, mais c'est énorme ce qu'elle fait.
Bah oui.
C'est vraraiment l'ogresse du tournoi féminin et elle va chercher. Je pense qu'elle peut aller chercher un gros record de grand chelem dans sa carrière. Je pense.
Ouais, on commence à retrouver une stabilité au niveau du.
Chez les femmes, ouais.
Chez les femmes.
Ouais.
C'est plus.
Après t'as la surprise italienne, la Paolini.
Ouais.
Elle a tout perdu le week-end.
Ouais.
Parce qu'elle a perdu les doubles aussi.
Ouais, c'est ça, ouais. Dommage pour elle.
Ojaber qui a du mal à confirmer.
Sabalenka aussi, qui est pas mauvaise chez les femmes. Donc, t'as une stabilité, ouais. Chez les femmes, c'est. Alors que chez les hommes, je pense que ça peut tourner.
Ouais.
Encore un peu. Mais si Alcaraz trouve cette régularité, c'est bon.
Ouais. Voilà pour le tennis. On va terminer avec l'athlé. Les médailles françaises à l'occasion de ces championnats d'Europe d'athlétisme à Rome. 4 médailles d'or, notamment depuis le début de ces championnats européens. Médaille d'or pour Sirena Samba Mayela en 100 mètres haies. Or également pour Alice Finot sur le 3000 mètres steeple. Sur la même épreuve chez les hommes, Alexis Mielès s'impose également. Et enfin, Gabriel Tual sur 800 mètres. Est-ce que vous avez une image qui vous a marqué sur sur ces débuts de championnat d'Europe que vous avez retenu?
Bah pour l'instant, c'est déjà un bon bilan comparé à d'habitude pour l'athlétisme. Là, tu as cité que les champions d'Europe, mais sur le
3000, médailles d'argent et 3 médailles de bronze.
Voilà, donc pour l'instant, ils ont un bilan, on va dire, plus que convient comparé aux autres années, surtout sur une année olympique. Là, il y a une possibilité ce soir en triple saut, il y a 2 Français qualifiés. Myers actuellement est deuxième du décathlon.
Agletti aussi.
Oui.
Agletti qui est pas loin aussi en décathlon, donc à voir aussi la suite. Ce que ça va donner pour lui.
Il y a le relais demain.
Oh, il y a le relais. Il y a encore des chances de médailles en Europe. L'image, moi, c'est hier le doublé sur le 3000 mètres steeple. Je trouve ça sympathique. En plus de voir des mecs qui s'entendent super bien et de voir un mec qui gagne en faisant son 5e 3000 mètres steeple de sa carrière.
C'est très fort.
Voilà.
Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dans cette émission de Génération Sport. On va laisser tout de suite la main à Imaginaire qui va reprendre les rênes de l'antenne. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis évidemment, votez pour les Générations d'Or, donc dispo sur nos réseaux sociaux. On vous laisse avec le générique et on vous dit à la semaine prochaine sur Radio G.